RTVFM, une femme, un homme, un territoire.
Aujourd'hui, RTVFM reçoit devant ses micros Alain Constant, nouvellement élu à la présidence de la COV, communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin et maire de la commune de Bézoin. Bonjour Alain Constant et merci de nous accueillir au sein de la mairie.
Bonjour et bienvenue.
Pouvez-vous un petit peu vous présenter peut-être à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore ?
Alors oui, effectivement, donc Alain Constant, je suis né le 27 août 66, donc j'aurai le privilège de fêter mes 60 ans cette année, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alors je suis issu d'une famille d'agriculteurs installés à Bédouin depuis de longues générations. Il me plaît de dire qu'effectivement, les métiers de l'agriculture façonnent une personne et je dirais drainent des valeurs particulières, des valeurs, je dirais, de nos jours de plus en plus importantes. Je suis diplômé de l'université Paris 10e en droit, économie et gestion. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes industriels. J'ai travaillé, alors, en tout début de carrière, pendant une vingtaine d'années, en papeterie de Malocène. Ensuite, j'ai travaillé à l'incinérateur de Vedaine pendant 6 ans, donc chez Suez, où là, j'étais responsable projet. Et ensuite, j'ai rejoint le secteur nucléaire pour Engie. Et là, j'ai pu, je dirais, mettre à profit toute mon expérience professionnelle.
Au niveau parcours de... qui vous aide finalement aujourd'hui, ce parcours ?
Oui, je viens du privé et le mix privé-public, je pense, est intéressant de nos jours. Et je pense même qu'il peut être indispensable, tout simplement, pour toucher du doigt les vraies problématiques du monde professionnel avec ses exigences. Et je dirais, après, coupler tout ça avec l'intérêt général, le service public, au sens noble du terme, ça a vraiment du sens. On est en capacité d'amener une certaine rigueur, une certaine vision des choses, une certaine optimisation. Et après, c'est un apprentissage, effectivement, avec le monde public. Mais j'ai l'avantage d'être élu aussi depuis 2008. Hein. J'ai fait un mandat dans la majorité en tant qu'adjoint. J'ai fait un mandat dans la minorité municipale de 2014 à 2020. Et je suis aux affaires communales depuis 2020. Et j'ai eu aussi, je dirais, l'avantage de pouvoir siéger en tant que vice-président aux mobilités, au personnel. Et puis j'étais également président de l'SPL des stations du Ventoux.
Donc un territoire que vous connaissez très bien.
Oui, c'est un territoire que je connais très bien. Et puis aussi, je suis passionné, effectivement, de tout ce qui est sport de pleine nature. Le sport, c'est ce qui permet aussi, à un certain moment, de vivre un petit peu mieux les choses, de savoir décompresser à certains moments pour, je dirais, pouvoir accepter certaines charges mentales.
Donc vous venez, il y a quelques semaines, de prendre vos fonctions au sein de la COV. Comment se sont passées, justement, ces premières semaines à la tête de la communauté d'agglomération ?
Alors, effectivement, on a beau être vice-président, on ne connaît pas, c'est un petit peu comme quand on est adjoint, qu'on prend l'habit de maire, on ne connaît pas effectivement toute l'organisation autour. Hein. La COV, c'est une grosse machine. Il y a des services qui sont là, qui sont en place, des services compétents, professionnels. Mais effectivement, il faut s'approprier le plus rapidement possible, je dirais, les lieux et puis aussi, je dirais, être en capacité de donner une trajectoire assez rapidement aux services, à la population, je dirais, à l'ensemble des gens qui attendent beaucoup de choses, ce que je peux comprendre.
Alors, il y a eu un premier conseil communautaire. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ce moment ?
Alors, effectivement, un premier conseil communautaire le 31 mars, ensuite un le 23 avril, où là, on a installé pleinement, je dirais, toutes les délégations, toutes les personnes. Et je dirais, c'est à partir de là que le coup de feu y part. Et puis, il faut se mettre, je dirais, en ordre de bataille. Il faut travailler et il faut donner aussi, je dirais, la tendance, la volonté, fédérer autour de soi et se mettre, je dirais, en phase de marche le plus rapidement possible parce que le temps, je dirais, passe très vite et il est important d'être en action.
Vous avez souhaité que l'ensemble des maires puissent être associés à la gouvernance de la COV. Est-ce que c'était le cas avant ? Est-ce que ça a été un pari réussi ? Et comment ça a été formalisé ?
Chacun ses conceptions hein, du collectif. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir œuvré dans une association hein, locale qui était le Racing Club Bédouin pendant 30 ans. J'ai fait 15 ans de présidence et j'ai une vision, je dirais, d'une équipe, d'un groupe où chacun, il faut qu'il soit concerné, il faut qu'il soit reconnu, il faut qu'il existe dans une organisation parce que quelqu'un qui n'existe pas, à un certain moment, il ne s'investira plus. Et un petit peu à l'image de ce que j'ai réussi à faire durant le premier mandat sur la commune, toutes les personnes sont concernées. Oui, l'ensemble des maires doit, je dirais, avoir le même niveau d'information, doit participer aux grosses décisions, aux décisions majeures. Et effectivement, telle est la volonté. Donc, pour l'instant, nous avons 23 communes représentées au sein du bureau communautaire, au sein de l'exécutif. Et peut-être prochainement qu'il y en aura d'autres à venir le dire.
Et alors, selon vous, aujourd'hui, quelles sont un petit peu les forces de la COV ?
Les forces de la COV, c'est déjà une diversité de territoires. C'est des services compétents, C'est, je dirais, une singularité aussi. On mixe un petit peu des zones urbaines, périurbaines avec du rural. Hein. On a des très petites communes. Et cette mosaïque de communes a un intérêt. En fait, ça permet d'ouvrir un champ de vision un peu plus large, d'être assez prudent. Certains aménagements pourraient déstructurer cet équilibre. On tient à cet équilibre. C'est ce qui fait aussi notre force. Donc, effectivement, on a un bel outil à disposition. L'idée, c'est d'accompagner, de rendre ce service public encore plus fort, d'être encore plus proche des gens, encore plus à l'écoute, et je dirais améliorer aussi le cadre de vie de ces gens.
Alors on parlait donc des forces, mais vous avez aussi des priorités pour cette mandature. Quels sont aussi les sujets sur lesquels il faudra avancer très rapidement ?
Alors, deux priorités, effectivement, quand on dit accompagner les gens, on a une période où la pression fiscale est de plus en plus prégnante et impacte de plus en plus les budgets. L'idée, c'est de travailler, d'optimiser tous nos coûts de fonctionnement, déjà pour ne pas augmenter cette pression fiscale, et puis aussi peut-être se donner les moyens de la baisser, de la juguler ou du moins de la maîtriser.
Donc investir sans alourdir la facture ?
Exactement. Donc c'est investir sans alourdir la facture, c'est accompagner. En fait, c'est nos priorités, c'est vraiment sur la GDD. Hein. On a eu la gestion des déchets, hein, pour être plus précis. On a une taxe que l'on va baisser dès 2027.
La TEOM.
TEOM, exactement.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Hein. Oui, alors cette taxe, effectivement, il y a eu beaucoup de discussions hein, sur le fait qu'elle était trop élevée, etc., etc. Mais je vais donner deux chiffres et conclure avec un troisième. Sur 2025, donc les frais de fonctionnement concernant ce budget spécifique, les frais ont été réduits de 500 000 euros. Les recettes, elles, ont baissé de 200 000 euros. Et malgré la baisse des recettes, du fait qu'on ait économisé 500 000 euros, on a un budget qui est excédentaire de plus 300 000 euros par rapport aux résultats précédents, justement par ces efforts qui ont été accomplis. La GDD, c'est deux points. Il y a le traitement, où là, on a des choses qui sont lancées sur le mandat 2020-2026 avec un nouveau centre de tri qui va être construit à Veden à côté de l'incinérateur. Et également un groupement, je dirais, d'Interco pour revamper le site de Veden. Donc toute la partie traitement des déchets est plutôt abordée. Alors ça représente 60 à 70% du coût. Et le reste, les 30 à 40%, c'est la collecte. On a fait, je dirais, des premiers efforts donc, sur les points d'apport volontaires. Et on doit travailler à travers un séminaire pour continuer ces efforts. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de réduire la pression fiscale derrière, d'optimiser les services, sans, je dirais, impacter la qualité. Ça, c'est important.
Alain Constant, on est dans les finances, on va parler du budget qui a été voté. Du coup, concrètement, est-ce que pour les habitants, on peut leur assurer, est-ce qu'on peut leur dire que les impôts vont évoluer ou pas ? Est-ce qu'ils vont augmenter ?
Alors, les impôts n'augmenteront pas. Hein. Donc, pour 2026, ça a été un souhait. Pour 2027, il va y avoir des efforts, du moins, on a une volonté de faire des efforts, effectivement, sur le foncier non bâti. Alors, le foncier non bâti, c'est quelque chose qui impacte directement un secteur qui est en difficulté, c'est le secteur agricole, le monde agricole. J'y suis attaché, comme beaucoup d'élus. Hein.
Donc, vous parlez donc d'une réduction de la CFE, c'est ça ?
Alors, non, le foncier non bâti, effectivement, ça concerne directement les agriculteurs. Ce sont des taxes, je dirais, sur l'exploitation agricole, sur les terres plus globalement. La CFE, c'est plutôt sur le développement économique, c'est sur la partie économique.
Donc c'est deux baisses quand même, il y aura quand même deux baisses, c'est ça ?
Alors,
possible.
Oui, sur le foncier non bâti, sur la CFE, on a une volonté, effectivement, de réduire cette pression fiscale pour essayer d'être un peu plus attractif. Globalement, si vous voulez, on a une photo qui est ce qu'elle est, hein, donc début 2026, sur les différentes taxes au niveau de notre intercommunalité. L'idée, c'est de progresser, je dirais, par rapport aux autres intercommunalités. On a un classement, je dirais, même si on pourrait dire actuel de l'intercommunalité de la COV par rapport aux autres intercommunalités. L'objectif, c'est de gagner des places, mais dans le bon sens. C'est de se rapprocher donc, des intercos qui prélèvent le moins, tout en garantissant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le service et la qualité du service.
Et alors justement, est-ce que vous auriez un message aussi à envoyer au monde agricole très présent sur le Ventoux face aux crises qu'ils ont vécues ?
On est sensible effectivement à ce secteur. Alors ce secteur, c'est un secteur historique hein, dans le canton Aveynessin, essentiel. C'est un secteur qui permet de nous nourrir. Hein, ça, tout le monde, il faut bien avoir à l'esprit cela. Mais c'est aussi une profession qui façonne le territoire. On a une certaine attractivité, certains paysages. Et c'est à travers cette agriculture, à travers ce monde-là, qu'on arrive aussi aussi à garantir cette attractivité. C'est un secteur qui a des difficultés. Alors, on parlait effectivement du foncier non bâti et des charges qu'on va essayer de réduire. Mais on avait aussi, j'ai tenu à être présent à une réunion sur Prévigrel l'autre jour, c'était à Malemort. Et là, on se rend compte qu'effectivement, pour éviter, je dirais, que la grêle tombe sur les récoltes à un certain moment, il y a une association qui a en charge, je dirais, de traiter ou du moins d'éviter ces chutes de grêle. Et un déficit financier pour garantir, je dirais, des seuils pour pouvoir tirer à partir de 20% du risque. Et là, c'est 30 000 euros qui manquent, je dirais, pour boucler le budget. La COV va faire un effort, comme les terrasses du Ventoux vont faire un effort. L'idée, c'est aussi d'accompagner ce secteur à travers des actions spécifiques. Il y a des sujets sur l'eau, hein, donc qui se discutent un peu plus à un niveau un peu plus haut, mais on est particulièrement attentif et on sera, je dirais, peser sur le débat de façon à pouvoir les accompagner.
On va aborder, si vous le souhaitez, Alain Constant, un petit peu le quotidien des habitants. On parle de propreté, on a parlé de déchets, on a parlé aussi de cadre de vie. Qu'est-ce qui va s'améliorer concrètement pour les habitants ?
Alors, le cadre de vie, alors, bien entendu, à ce jour, on pense effectivement à la collecte des déchets, des apports et toutes les zones périphériques où on peut récupérer ces déchets. Mais aussi, on a une réflexion pour pouvoir insuffler une dynamique cadre de vie au sens large sur les communes. Donc, on a eu par le passé un fonds de concours qui était axé sur le patrimoine. Pourquoi pas demain à discuter avec les élus, je dirais, un fonds de concours sur la dynamique cadre de vie, c'est important. C'est important de travailler et de vivre un endroit où le cadre de vie est agréable. Alors, oui, il est plutôt agréable, mais il n'y a pas que sur les communes rurales, il y a aussi dans certaines villes un petit peu plus conséquentes où on doit les aider et puis participer à l'amélioration de ce cadre de vie.
Alors, qu'est-ce que vous attendez aussi peut-être des habitants ? Parce que là, on entend beaucoup la COV aussi, qui travaille, les intercos, etc. Mais les habitants aussi, peut-être au niveau de la propreté, il y a des messages aussi à faire passer, à continuer à faire passer en tout cas peut-être ?
Alors, sur les communes, c'est plus facile. On a une proximité un petit peu plus directe avec les habitants, que ce soit les élus, que ce soit le personnel. Mais je pense qu'à l'avenir, il va falloir qu'il y ait une vraie prise en compte des habitants. Donc, alors, non seulement pour respecter le cadre réglementaire, hein, bien entendu, ça c'est la première des choses, mais aussi pourquoi pas être actif au sein de son quartier, au sein de sa rue, pour pouvoir, lors d'opérations qui pourraient être menées, et on est en train de réfléchir au niveau de la commune, des actions par quartier avec le personnel qui pourrait, intervenir sur une journée, et là, toutes les bonnes volontés pourraient participer et entretenir et puis après signaler, s'approprier tout simplement l'espace public.
Alors vous travaillez bien sûr avec les communes, hein. Comment se fait ce travail entre la communauté d'agglomération et les communes ? Comment vous travaillez aussi sur les projets, sur les différents sujets ?
Moi je suis quelqu'un d'assez transparent et j'aime bien les décisions collégiales et collectives. L'important c'est d'avoir tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Je dis souvent, quand on raisonne sur un seul projet et qu'on n'a pas la vision totale, je dirais, de nos compétences ou des besoins, on a plus de besoins que ce qu'on a de finances, c'est comme ça, c'est pas qu'au niveau de l'interco, c'est pareil au niveau des communes, c'est au niveau de l'État. Donc on doit faire les bons choix. Pour faire les bons choix, il faut qu'on ait connaissance, l'ensemble des élus, de tous les projets ou de tous les leviers que l'on doit actionner. Et à partir de là, il faut bien comprendre que quand on prend une décision, qu'on s'engage sur un projet, forcément, il faut se poser la question, si je fais ça, qu'est-ce que je fais pas d'autre ? Parce qu'on a trop tendance à raisonner sur un projet. Alors oui, le projet tel qu'il est présenté, il est intéressant. Il n'y a pas de projet inintéressant. Alors, combien il concerne de personnes ? Quel est l'impact financier ? Et qu'est-ce que je laisse de côté ? Il faut vraiment avoir cette capacité d'analyse beaucoup plus large que ce qui peut se faire quand on raisonne en silo. Je dis en silo, c'est tout simplement sur un projet. Ok, je fais celui-là, mais qu'est-ce que j'abandonne ? Qu'est-ce que je laisse sur le côté ?
On va parler dans quelques instants justement de ces grands projets. Juste avant, vous avez créé une délégation de l'accès aux soins. Pourquoi cette initiative et quels en sont un petit peu les objectifs prioritaires de cette délégation de l'accès aux soins ?
Alors, il faut savoir qu'il existe, je dirais, un contrat local de santé. C'est un outil qui peut être porté par une intercommunalité conjointement avec l'ARS. Et l'idée, c'est de réduire les inégalités territoriales et sociales de la santé. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate dans les zones rurales, on constate dans certains quartiers urbains en difficulté, effectivement, un accès aux soins qui est corné, qui n'est pas au rendez-vous. L'idée, c'est de travailler avec l'ARS. Donc, alors, c'est la mise en œuvre d'un plan régional de santé où là, on va pouvoir faire la promotion de la santé, la prévention, la politique des soins, l'accompagnement médico-social. C'est tout simplement contribuer à réduire ces inégalités par des actions très concrètes en partenariat avec l'ARS. Donc, on a des maisons de santé qui se sont développées. Comment on réfléchit de façon à pouvoir être, je dirais, dans un esprit plus collectif, hein. On ne raisonne pas uniquement au niveau d'un village ou d'une commune, il faut raisonner un peu plus large. qu'est-ce qu'on mutualise ? Quels sont les moyens qu'on se donne au niveau de l'Interco pour réduire, je dirais, ces inégalités.
En octobre, vous inaugurez aussi donc, le phare qui se trouve à Carpentras. Donc, je crois que vous avez déjà visité d'ailleurs les locaux. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que ce nouvel équipement va concrètement changer pour les familles du territoire ?
Alors, le phare, ou appelé maison de la parentalité, hein, plus communément, regroupe la maison des familles et la crèche des Lucioles. Alors la crèche des Lucioles, c'est 60 berceaux, donc c'est un établissement, le phare neuf, hein, qu'on inaugurera effectivement au mois d'octobre. L'idée, c'est vraiment d'accueillir tous les parents, toutes les familles. Je vous cite un chiffre, il y a 40% des parents qui se déclarent se sentir isolés ou en difficulté, justement, par rapport à cette notion de parentalité, d'accompagner les enfants. Le monde change, le monde bouge, et effectivement, on se rend compte que ces outils qui permettent à un certain moment, par des temps d'échange, des ateliers avec les parents, donc des groupes de parole, les gens vont partager leurs soucis et il y a des professionnels donc, qui accompagnent effectivement ces familles. Donc c'est un accueil physique, c'est un accueil avec une écoute attentive et confidentielle. C'est vraiment un soutien dans les moments de difficulté pour les parents.
Vous aimez les sports de nature ? On va parler de vélo un petit peu, puisque le label Territoire Cyclable donc, a obtenu la COV, et donc c'est 2,7 millions d'euros d'aide. Le réseau va donc s'agrandir. Concrètement, quelles sont un petit peu les prochaines communes qui vont être reliées ?
Alors il y a eu effectivement déjà sur la mandature précédente, un chantier donc, d'envergure sur Carpentras hein, pour rejoindre Mazan. Il y a des études qui sont très avancées donc pour rejoindre Carpentras, Serres et Caron, mais aussi Monteux à Carpentras. Donc il y a des soucis techniques, mais comme tous les soucis techniques, ça peut à un certain moment, c'est des problèmes qui vont être résolus. On a cette volonté de continuer à avancer, de mailler le territoire, effectivement, et les prochaines étapes recensées dans le plan d'action, c'est Monteux-Carpentras, Caron-Carpentras ou Carpentras-Caron en passant par Serres. Mais effectivement, c'est un projet qui est financé avec des aides de la région, des aides importantes, il faut qu'on y aille.
Alors vous abordiez tout à l'heure un petit peu le quai de transfert, justement. Quels sont les autres grands projets à venir sur le territoire ? Il y a notamment les travaux aussi de réhabilitation de la crèche Les Berlingots. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi importants ?
Qu'est-ce qu'on constate effectivement sur les crèches ? Donc, alors on a la crèche des Berlingots qui va être réhabilitée. On a signé les marchés là, récemment. C'est 40 berceaux, donc un établissement entièrement réhabilité. Qui ouvrira ses portes, je crois, fin 27, début 28. On a une chute de la natalité, et effectivement, les crèches, on doit restructurer. On est, je dirais, calibré, comme on l'était il y a quelques années, pour accueillir, je dirais, l'ensemble des enfants. On n'a pas de soucis majeurs par rapport à ça. Le tout, c'est d'avoir des établissements, je dirais, qui répondent à l'ensemble des normes, hein, mais également au niveau du confort pour le travail et pour les enfants. Donc, on a sur le plan économique aussi de gros projets. Hein. On a effectivement un territoire de la Cove qui est impacté par la Loisanne, zéro artificialisation nette. Et on a la chance d'avoir du foncier sur le marché Gard.
Donc, la Cove doit rester attractive. Le but, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est vraiment de rester attractif. Et surtout
pour les entreprises.
De proposer effectivement, de donner les moyens d'accueillir des entreprises avec des structures, une capacité d'accueil, avec une CFE effectivement optimisée. On a le secteur donc, du marché Gard où là on a en gros une dizaine d'hectares, 10 à 11 hectares qu'on peut aménager de façon à accueillir de nouvelles entreprises. On a le secteur de l'aérodrome aussi. L'aérodrome a une particularité, une singularité, c'est que c'est une propriété de la COM mais sur les limites administratives de Pernes-les-Fontaines. Et l'idée, j'ai rencontré récemment donc, le président des Sorgues du Comtat, c'est de travailler ensemble pour faire un projet gagnant-gagnant, effectivement, sur cet aérodrome. Et là, c'est de libérer du foncier, c'est des zones qu'on peut caractériser de zones anthropisées, hein, où on va pouvoir implanter ou donner des opportunités aux entreprises donc, et à des gens de travailler localement pour développer l'économie autour de tout ça.
Est-ce que vous avez d'autres priorités pour les prochains mois ? Est-ce que vous souhaitez aussi passer peut-être un message aux habitants de la communauté d'agglomération qui nous écoutent en ce moment ?
Le message pour moi, il est très simple. Hein, c'est tout simplement, c'est ensemble, il faut qu'on construise notre avenir. Les élus sont là pour vous écouter. Je dis souvent, quand on est élu, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut, on est là pour faire ce que les gens attendent. Et ça, c'est très important pour moi. Il faut absolument que demain, on ait cette faculté, cette possibilité de faire remonter les besoins des personnes là où on est attendu et surtout de réaliser.
Pour terminer, M. Constant, si vous deviez résumer en un seul mot l'ambition principale de votre mandature pour que la COV ne laisse personne au bord du chemin, quel serait-il ?
Je le disais tout à l'heure, ensemble, écouter, être en capacité de faire ce que les gens entendent. C'est surtout ça.
Merci beaucoup Alain Constant, en tout cas, d'avoir accepté de répondre aux questions de RTVFM. Merci aussi de nous avoir accueillis au sein de la mairie de Bédouin. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau président de la COV qui comprend 25 communes et donc maire de Bédouin. Merci en tout cas.
Merci à vous.